vous parler de... Le titre de l'exposé, c'est schématiser la géométrie projective. Alors, donc je ne vais pas remonter à Poncelet. Par contre, je vais essayer de vous parler un petit peu quand même de von Schlott, ce qui s'est passé autour de la tentative de von Schlott de construire la géométrie projective de manière indépendante de la géométrie métrique. Puis des ajustements qui ont eu lieu à l'époque de Klein, pour arriver réellement aux tentatives d'axiomatisation, et on essaiera de regarder deux plus particulièrement, celle de H et celle de Pierre. Alors, pour raconter l'axiomatisation de la géométrie projective, ils ont essayé d'en rendre compte un petit peu de manière, comme dirait dans le titre de Bérard de Bergerie, de manière protéiforme, il faudrait rendre compte d'un certain nombre de contextes que je rappelle. Bien entendu, il y a contexte plus général de toutes les axiomatisations à la fin du 19e, et donc dans laquelle on va retrouver bien entendu l'axiomatisation de l'arithmétique, celle de la logique, en particulier l'axiomatisation de la géométrie projective joue un rôle essentiel, selon Henriques, dans la construction d'une logique et dans sa traduction formelle. Et bien entendu, il n'y a pas que la géométrie projective, et donc il y a des axiomatisations de toutes les géométries qu'on trouve à ce moment-là, qu'elles soient élémentaires, euclidiennes, absolues, etc. Alors bien entendu, il y a un deuxième contexte, et ce sera le contexte qui nous intéressera aujourd'hui. Vous avez vu, je l'ai annoncé, von Schlott, Klein, etc. Ce sera essentiellement à partir de ce contexte, quasiment exclusivement même, que l'on travaillera. C'est le contexte de la géométrie projective, donc avec von Schlott et cette exigence de fonder de manière intrinsèque la géométrie projective. Puis toutes les questions qui vont naître à partir de l'axiome des parallèles, de manière surprenante, on va le voir, enfin pas surprenante que ça, on va voir apparaître, et les questions de continuité. Et bien entendu, au moins au 19e, toutes ces questions d'axiomatisation et de fondement en géométrie ne peuvent pas être vues de manière indépendante au débat philosophique autour de la théorie. De l'espace, la question de l'espace, et on verra que selon les a priori, et dirons-nous les volontés philosophiques d'un certain nombre d'auteurs, l'axiomatisation prend une certaine forme, c'est-à-dire que les questions philosophiques vont peser sur les aspects techniques des mathématiques. Bon, avant de passer au cœur de l'exposé, rapidement, quand même, pour vous montrer quand même que c'est un sujet qui est extrêmement vivant tout à la fin du 19e, c'est pas simplement une construction d'historien, voilà à peu près toutes les tentatives de plus ou moins liées, quasiment celles que je connais, je pense qu'il y en a d'autres, je vais citer disons que je cite que les grands noms, toutes les tentatives d'axiomatisation de la géométrie projective, ou plus ou moins liées à la géométrie projective. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que l'exception de Whitehead en 1906, qui clôt le chapitre, et c'est un peu c'est déjà une autre histoire, hein. Je l'ai cité pour mémoire, entre l'édition 99 et l'édition 81, donc en 20 ans, beaucoup de tentatives, et essentiellement des Italiens, et on pourrait trouver quelques Allemands, David Hilbert, je m'en prends pour un ou deux autres, et puis il y a Pache quand même. Bon, alors ça c'est une question à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui, c'est pourquoi des Italiens, pourquoi des Allemands, et seulement, quasiment, des Italiens, et en particulier pourquoi pas de Français. Ça, c'est une question assez Je pense que c'est lié à la... Comme je ne vais pas en parler, je ne vais pas parler deux minutes maintenant. C'est lié à l'enseignement de la géométrie, je pense. Et à la manière dont les élèves apprenaient la géométrie. Et en, que ce soit en Italie ou en Allemagne, justement, il y avait un rapport l'exposer selon le QD. Et alors qu'en France, on passait beaucoup plus vite à la géométrie analytique. Bon, c'est des hypothèses, je pense que ça doit pouvoir se défendre. Et après, je pense qu'il y a des traditions après de recherche. Donc, la somatisation, c'est une manière de fonder une discipline. Et avant d'entrer directement dans la géométrie projective, on pourrait se demander ce que c'est que fonder une discipline. Alors, fondée au 19e, mais je pense que c'est aussi valable au 20e, dans les fondements, et dans, en tout cas, on peut faire une histoire de la géométrie projective, c'est un peu ce que je tente dans mes travaux actuellement, à partir justement de ces quelques principes autour de la notion de fondement d'une discipline. Qu'est-ce que fonder donc la géométrie, qu'est-ce que fonder une discipline? Ben, il y a une première grande idée, c'est limiter le champ par rapport aux autres, c'est-à-dire que dans le champ du savoir, c'est comment trouver sa place et comment lui faire une place. Et en particulier, donc, dans l'histoire de la géométrie projective, on pourrait trouver des exemples, en particulier comment au début, avec les travaux de Poncelet, Chagres, entre autres, il y a tous ces débats autour de la définition d'une propriété projective et d'une démonstration projective, ça, le transparent. Il y a toutes les polémiques autour des avantages de ce qu'ils appelaient, non pas à l'époque encore géométrie projective, mais la nouvelle géométrie. J'en rappelle une, celle de Jardon et Poncelet, mais il y en a un certain nombre. Et l'objectif de von Staudt est, par exemple, de, à un moment, de poser cette nouvelle géométrie de manière complètement indépendante par rapport aux autres géométries. Bon, autre exemple, c'est là plus lié à des questions philosophiques et à l'exposé précédent de la région du Grand, c'est tous les débats qu'il y a autour de la vraie géométrie qualitative, puisque à cette époque, la géométrie projective est, entre guillemets, ce qui viendra à la topologie, sont tous les deux d'excellents candidats à exprimer cette notion de géométrie qualitative par rapport, en opposé à la géométrie quantitative, la géométrie métrique. Voilà, un autre aspect de fondement, bon, qui n'est pas complètement indépendant de la notion de limiter le champ, mais enfin qui est, dirons, une autre vision de cette activité de fondement, c'est dégager les bonnes notions. Alors par exemple, dans l'exposé qu'on va voir, ça va être cette question de continuité. Hein, et on va essayer de suivre un petit peu ce qu'on pourrait qualifier d'errement, enfin du moins simplement de tâtonnement autour de cette question de continuité. Bon, il y aurait une autre manière, c'est de regarder qu'est-ce que c'est qu'une transformation projective, etc. Bon, et parmi ces activités de fondement qui sont, je le répète, je crois, une manière de voir la géométrie projective, l'histoire de la géométrie projective, c'est une des manières de voir son histoire, l'axiomatisation va être une stratégie parmi d'autres de l'activité de fondement. Alors, on peut déplorer maintenant que dans la pratique mathématique, le terme de fondement soit essentiellement lié à cette activité d'axiomatisation, ce qui permet de dégager complètement... Je ne dis pas que les mathématiciens ne font pas ça, ils ne travaillent pas à limiter et à limiter leur champ ou à le justifier ou à dégager les bonnes notions, ça continue bien à le faire, c'est inhérent à l'activité du mathématicien, mais c'est évacuer de la notion de fondement, et ça pèse à la fois sur les mathématiques, mais ça pèse aussi sur la philosophie et sur l'histoire. Il y a un véritable problème,
comme diraient les autres, épistémologique.
Alors, quelles vont être les raisons qui peuvent justifier la fin du 19e, ce choix de choisir justement cette stratégie d'axiomatisation. Bon alors certes, il y a les contextes, il y a d'autres endroits qui s'axiomatisent, il y a une raison, c'est pourquoi ne pas axiomatiser la politique productive, et en particulier ça va être des réflexions autour de la rigueur. Donc, pour mémoire, tout le 19e est traversé quand même par une tentative et tout un travail d'arithmétisation de l'analyse, et donc un des objectifs et une des justifications est justement d'apporter de la rigueur, une rigueur de plus en plus aiguë dans l'analyse. Il y a aussi voir tout ce que l'on admet, hein, en particulier c'est le 19e découvre des postulats qui étaient implicites, non exprimés. Alors, que ce soit au niveau de la continuité, les travaux de Dedekind, bon, qui vont se traduire en géométrie avec Klein, les travaux de Cantor, etc. Mais il y a d'autres postulats, il y a celui d'Archimède, le postulat d'ordre, pour la géométrie. Et une méfiance qui traverse tout le 19e, et je crois toutes les disciplines, c'est une méfiance par rapport à l'intuition. Tous les exemples donnés par l'analyse ou la géométrie. Alors pour la géométrie, on peut citer par exemple la géométrie euclidienne, qui amène une certaine question, une certaine méfiance par rapport aux idées que l'on a immédiatement aux sensations et aux représentations spatiales. Mais en analyse, ne serait-ce que l'exemple classique de la fonction continue nulle part dérivable, va heurter les mathématiciens et réellement les conduire à se méfier des intuitions et des a priori intuitifs. Bon, parallèlement à ça, il y a aussi, pour la méfiance par rapport à l'intuition, on pourrait retrouver et recouper ça par rapport à des positions, des prises de position philosophiques autour d'une réaction au quantisme. Donner un exemple, Bolzano, ce que j'en ai lu, enfin on peut comprendre ça, il me semble, que sa méfiance à l'intuition n'est pas tant par rapport à éventuellement des résultats contre-intuitifs que l'on peut trouver en mathématiques, que une volonté de se poser, d'adopter une posture anti-pensée. Bon, une autre raison pour choisir l'automatisation, c'est qu'on sépare deux moments dans les mathématiques, la recherche et l'expression des axiomes, et après, les développements à partir de ces axiomes. Le développement, une fois qu'on a développé, une fois qu'on a exprimé des axiomes, le développement se veut purement formel et purement logique. Hein, la démonstration est dans la justification. Et toute la discussion sur les rapports entre géométrie et espace sont renvoyés simplement à la question du statut des axiomes. Et donc ça permet de poser assez explicitement et de manière claire, les enjeux de la discussion philosophique. Donc, en particulier, toute la discussion entre empirisme et rationalisme va être renvoyée simplement à quelle est la nature des axiomes de la géométrie. Non plus à des discussions sur l'intuition, etc. Bon, et bien entendu, à la fin du 19e, on ne peut pas non plus ignorer l'existence des de la montée psychologique, l'émergence des disciplines psychologiques, etc. Et en axiomatisant, on assure l'indépendance des développements. Hein. Donc, c'est tout ce qui se passe après les axiomes, de toutes ces questions, justement, qu'elles soient psychologiques ou simplement le recours à l'expérience. Et donc, de manière explicite, vous avez les deux là. C'est dans l'introduction de Pache. Alors, je vous ai mis Pache 1882. Les citations auxquelles je vais vous renvoyer, ce sera la deuxième édition de Pache, parce que je n'arrive pas à trouver. L'édition de Pache, elle est quasi introuvable. Bon, je sais qu'elle est à Strasbourg, mais ils ne veulent pas prêter. Il faut un coup, j'y aille. Mais bon, je pense que ça ne doit pas être... Il y a quelques évolutions de termes, mais ce n'est pas dramatique. Mais ça, de toute façon, c'est dans l'édition 2.2, parce que c'est cité par Pierry en 1900. Et donc, où il affirme que si on veut que la géométrie soit vraiment déductive, il faut réellement donc, que tout ce qu'on utilise dans les développements soit indépendant de toute notion d'intuition et d'expérience. Bon, et pour terminer, une raison historique inhérente au développement de la géométrie projective, ça va être les lacunes que l'on va trouver dans le développement de Stout. Pendant une vingtaine d'années, j'ai l'impression que le texte de von Stout a servi, dirons-nous, de modèle, c'est écrit par Rayeux, c'est écrit par Bruno Manuel, de modèle d'exposition de la géométrie projective. Un certain nombre de gens qui ont commencé à s'apercevoir qu'il manquait quelques éléments. Et Klein exprimera ça sous le terme de look, des lacunes, dans von Stout, et c'est essentiellement autour de la notion de continuité. Et donc on va s'apercevoir qu'il y a un moment, ben, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on utilise et d'exprimer réellement tous les termes et tous les besoins, toutes les notions dont on a besoin. Et donc, avoir justement une axiomatique. Au moins exprimer les axiomes. Alors, justement, puisque on va partir de l'exposé de Stout, un résumé du livre de von Stout, Géométrie de la gueule. Vous remarquerez qu'il ne dit pas géométrie positive. Hein. Je mets des situations, hein, des lieux. Et ça. Dans l'introduction, donc à la page 3 de l'introduction, il exprime réellement son objectif, à savoir justement de fonder la géométrie de situation de manière autonome, hein, à savoir. Et en particulier, qui n'a pas besoin de la notion de mesure. Donc, à la fois une autonomie et une revendication d'indépendance par rapport à la géométrie métrique. Alors, la stratégie de ces stratégies qu'on retrouve dans beaucoup d'exposés de géométrie métrique, il introduit des notions de point droite. De faisceau de droite, de faisceau de plan, de gerbe de droite, gerbe de plan, arrive à cette notion de forme fondamentale de première espèce, entre guillemets, qui dépend d'un paramètre, de deuxième espèce, qui dépend de deux paramètres, et c'est pas dit exprimé comme ça, hein. Là, c'est un peu en langage moderne. C'est-à-dire que, grosso modo, les formes fondamentales de première espèce, c'est la droite. Le faisceau de droite, c'est l'ensemble des droites appartenant à un même plan qui passent par un même point. Là, pour l'instant, on est dans une vision, dans une expression, dirons-nous, réduite des notions de faisceau et de gerbe. Et de première espèce, qu'est-ce que j'ai d'autre encore c'est tout, hein. J'ai fait sur plan qui sont droite et droite. Et les formes de seconde espèce, c'est le plan, la gerbe de droite et la gerbe de plan. Alors, premier point, après, il généralise sa notion au faisceau de droite parallèle, faisceau de plan parallèle, puis gerbe de plan de droite parallèle, et à l'aide de ces notions, il généralise la notion de point et de droite en introduisant justement les éléments à l'infini. Et donc, il distingue explicitement les situations où les droites sont concurrentes, des situations où les droites sont parallèles. C'est explicite. Hein. Quand j'ai trois droites, il y a un certain nombre de situations qui peuvent se produire. Les trois droites se coupent, il y en a deux qui se coupent et les trois se coupent dans un même point où elles sont parallèles. Bon, une fois qu'il a introduit les éléments à l'infini, qu'il a, dirons-nous, une version un peu généralisée, une notion de plein point de droite, il introduit la notion de domaine harmonique, le théorème du quadrilatère de von Stoke, que je vous rappelle. Donc, si vous avez trois points sur une droite, ça généralise à chaque fois si vous en prenez des parallèles. Et à partir de là, vous construisez les deux diagonales, et là, vous obtenez un point D, et le miracle, c'est que ce point D ne dépend pas du choix de E. Le choix ne dépend que de la position de AD et C. Donc ça, c'est le théorème du quadrilatère de Stoke. Et il le montre de manière purement objective. Et donc, bien entendu, ABCD constitue un domaine harmonique. Donc, domaine harmonique dont von Stoke montre qu'il se préserve lorsqu'on projette et lorsqu'on opère des sections.
Si vous avez
un domaine harmonique, vous avez aussi un domaine harmonique. Et donc, bien entendu, par composition de projection et de section, donc par ce qui s'appelle des perspectivités à l'époque. Et de temps en temps. Bien. Et ça, dans l'histoire de ce qu'est une transformation projective, c'est important parce que là va apparaître à la fois un problème et deux notions. Donc vous avez une manière, dirons-nous, constructive de construire des transformations, par section et par projection, c'est la méthode de Poncelet. Et vous avez une question, à savoir quelles sont les transformations qui vérifient peut-être un certain nombre de données d'hypothèses techniques, mais surtout dont la propriété est de conserver les domaines harmoniques. Et ça, ça va être une question, la question va être de démontrer dans quelles circonstances et quand est-ce que ce sont les deux mêmes. Alors, von Stoke définit donc les correspondances projectives comme les correspondances qui conservent les domaines harmoniques et va montrer ce fameux théorème. Effacer que le théorème qui est considéré comme le théorème fondamental de la géométrie projective, à savoir que si vous avez sur une droite, ou plus généralement sur une forme fondamentale de première espèce, une correspondance projective sur elle-même, si elle a trois points fixes, s'il y a trois points fixes, il va se transformer en A, B en B, C en C, alors tous les points se transforment en eux-mêmes. À partir de là, on démontre, on peut déduire assez facilement que toutes les correspondances projectives sont des compositions projectives. Et plus généralement, où sont les perspectives plus généralement, bien entendu, que si vous avez, vous définissez une correspondance projective en associant vous définissez l'image de trois éléments, alors vous avez gagné.
C'est sur la droite. Hein.
Comment ? Oui.
Sur la droite.
Et à partir de là, von Stoke peut obtenir, peut construire la notion de coordonnées projectives, et à partir de là, il a rattrapé l'exposition, dirons-nous, précédente, qui utilisait encore des notions métriques pour définir les coordonnées projectives.
Mais il faut qu'il ait un espace pour sa droite.
Comment ?
Il faut qu'il ait un plan pour jouer avec des droites, ou au contraire, tout est sur la droite.
Comment ça, tout est sur
la droite ? C'est-à-dire qu'il a besoin qu'il est dans un plan.
Mais il est même dans l'espace, quand je peux.
D'accord, mais il a un problème, finalement, c'est sur la droite.
Oui.
Okay. Donc il a
plein
dans l'espace.
Oui, il a plein dans l'espace. Alors bon, alors on va regarder deux minutes la démonstration du théorème fondamental. Donc a priori, il a gagné, hein, puisqu'il a réussi à construire la notion de coordonnées projectives sans utiliser la notion métrique et sans utiliser de données de notion métrique. Et donc il a réussi son objectif, qui était, donc, je vous rappelle, de fonder de manière autonome cette géométrie et en particulier, la rendre indépendante des géométries métriques. Alors, je reprends la correspondance projective de la droite sur la droite. Et comment va-t-il démontrer ce théorème ? Alors, il distingue deux cas. Le premier cas, on a un domaine continu de points fixes. Alors qu'est-ce qu'il appelle domaine continu ? Ben, grosso modo, c'est un segment. Donc on a tout un segment de points fixes. Alors avec ce qu'il a démontré avant, sur les domaines harmoniques et la position des points, ce qu'il démontre, grosso modo, c'est que n'importe quel point qui va être, enfin, quand je dis il démontre, plutôt il affirme, que n'importe quel point qui va être à l'extérieur de ce segment est en fait le conjugué harmonique, ou son conjugué harmonique, ce qui est à peu près correct, hein. Donc on prend un point à l'extérieur, je crois que c'est C, le conjugué harmonique de C est à l'intérieur de AB, D, sur D, le point D est à l'intérieur de AB, comme D est fixe, alors automatiquement, puisque ma correspondance conserve les domaines harmoniques, C est fixe. Donc, si on a un domaine continue le point fixe, pas de problème, tous les points sont fixes. Voilà. Alors, le deuxième point de la démonstration, c'est dire bon, il n'y a pas de domaine continu. Et si j'ai, comme je n'ai pas de domaine continu, il y a au moins trois points que je peux, dont je peux dire que je prends deux points fixes consécutifs, un D, point. Donc deux points fixes consécutifs. Voilà. Et entre A et B, il n'y a pas de point fixe. Il n'y a pas de point fixe. Alors maintenant, mon hypothèse, c'est qu'il y en a trois, au moins trois de point fixe. Donc j'en ai un, et il est à l'extérieur. C'est, j'ai un point fixe à l'extérieur. Alors, vous voyez tous comment il va conclure. Parce qu'elle a le domaine, le conjugué harmonique de C, lui, il est entre A et B, et pas ici. Voilà. Alors donc là, à peu près où on en est pendant un certain temps, Rayeux, qui j'ai oublié sa date, enfin c'est dans les années 60, refait un exposé de géométrie projective qui reprend l'intégrale de fond de chose. Quelques améliorations, mais il n'y a pas d'amélioration ni d'interrogation par rapport à ça. Et on arrive à Klein. Dans les années 73, il n'est pas sans ignorer que Félix Klein propose, dans une série d'articles sur les géométries, les soi-disant géométries non euclidiennes, des modèles projectifs de ces des géométries de l'équilibre. Alors, il est vite confronté à une première question par rapport à l'exposé de Kuhn-Schlott. S'il veut construire à partir de la géométrie projective les modèles de géométrie euclidienne et de géométrie non euclidienne, dans le but évident de montrer qu'elles sont au même niveau pour ce type de construction, donc elles ont le même type, entre guillemets, pour prendre un grand mot, un mot d'aujourd'hui, le même type de consistance et le même type de rationalité, tout dans l'esprit de Klein. Eh bien, il faut au moins s'assurer que la géométrie projective est indépendante de la géométrie euclidienne. Autrement, on est certain. On peut construire des modèles projectifs, des géométries euclidiennes, des géométries euclidiennes, mais si la géométrie projective utilise l'axiome des parallèles, on n'a pas gagné grand-chose, parce qu'on a fondé des modèles à partir de quelque chose qui était déjà fondé sur la géométrie euclidienne. Donc, sa première question à Klein, c'est d'essayer de montrer que, en fait, on peut construire, contrairement à ce que dit Zeev et à l'exposé de von Stott, c'est qu'on peut construire la géométrie euclidienne, la géométrie projective, indépendamment de toute position sur l'axiome des parallèles. Ça, c'est son premier point. Donc, je connais, hein, tout. Ça, c'est les dizaines de Klein-Klein, c'est les exposés et les développements de von Stott. Et ils sont indépendants des considérations de mesure, mais en aucun cas, l'axiome des parallèles n'a été écarté. Hein. Bien. Et dans une note, en plus, il rajoute que les développements de von Stott ont un problème, une lacune, qui, à son, dans la tête de von Klein, ne devrait, devrait nécessiter l'expression d'un axiome. Alors, dans, la, dans cette question de continuité, je crois que comment ça va se passer, on va voir apparaître en fait deux questions. La question de la continuité des domaines et la question de la continuité des transformations politiques. Après, vous allez percevoir que la question n'était peut-être pas là où on pensait. Alors, la première question que pose Klein, ça va être donc de fonder la géométrie projective indépendamment de l'action des axiomes, des, l'action des parallèles, l'action des parallèles. Et donc, la, si on se rappelle, dans l'exposé de von Stoff, en fait, la notion de parallèle, elle servait à introduire des éléments à l'infini. Et donc, la stratégie que va utiliser Klein, et on verra qu'elle sera reprise par Pasch, c'est en fait de ne s'intéresser qu'à la géométrie d'un domaine limité. Donc, à l'intérieur d'un domaine limité, on n'a pas à se préoccuper de la question des parallèles. Donc, on, l'objectif, ça va être de, d'arriver au même résultat que von Stoff, c'est-à-dire à la notion de coordonnées projectives, mais en travaillant à partir d'un domaine limité. Et donc, en fait, la, la question, c'est obtenir le théorème fondamental, comme celui que j'ai rappelé tout à l'heure, dans un domaine limité. Alors, en plus, il va essayer de gagner en généralité, c'est-à-dire qu'il va exposer, non pas pour des systèmes de droite ou des systèmes de surface, des systèmes de plans, mais il va essayer tout de suite de travailler avec des systèmes de courbes et de surfaces à l'intérieur du domaine qui vont vérifier essentiellement deux axiomes que par trois points déterminés de l'espace que l'on considère, qu'il passe une et une seule surface du système que l'on considère, et que les courbes d'intersection des surfaces, une fois qu'on a il va définir la notion de germe, non de faisceau. Savoir que si on prend deux surfaces, deux surfaces qui se coupent le long d'une courbe, n'importe quelle courbe, n'importe quelle surface qui contiendra deux points de cette courbe contiendra en fait toute la courbe. Hein, c'est à partir de là qu'on peut construire la notion de faisceau. Alors, il pose la question au Klein, et j'avoue que là je sèche complètement, on appelle un technicien. Il a l'air de dire qu'en fait tout ça c'est jamais que des. Il ne gagne pas grand chose en généralité, ce ne sont que des déformations en fait, du système droit, droit plan. Ce qui vérifie tout système de courbes et de surface qui va vérifier ça, en fait, c'est jamais qu'une, qu'une manière, que des droites et des plans qui ont été tordus. Bon, il le dit, mais il n'y a pas grand chose. Mais enfin, il affirme, et là, j'avoue, je ne sais pas. Bon, une fois qu'il est dans son domaine limité, qu'il a son système de points, de courbes et de surfaces, eh bien, il utilise après la même stratégie que von Stoff, c'est-à-dire qu'en force, il définit la notion de forme fondamentale de première et deuxième espèce, et démontre le théorème du quadrilatère complet. Alors, juste une question, un tout petit peu, un point technique. sur la démonstration du code de la Terre complet.
Vous doutez bien, on va refaire sur des droites. Si on est dans un domaine limité, bon, je le fais convexe, je pense que c'est. Hein, on travaille A et C. Bon, voilà. Tout dépend de comment on le construit. Et enfin, on peut aussi envisager de prendre. Je trace une droite par A, je trace une droite par B, et on peut sortir du domaine. On aimerait bien pourtant avoir ce théorème. Alors, si on veut démontrer que c'est indépendant de ce point, du point d'interrogation, donc indépendant du choix des droites qui passent par A et par B. Dans la démonstration classique de von Storck, si vous prenez un point A, B, C, E, si vous prenez un point E' qui n'est pas dans le même plan que le plan déterminé par la droite et par E, la démonstration est égale, on montre tout ce coup sur la droite d'intersection A, B, C, donc